Hors champ, bonsoir à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Hors champ ce soir en compagnie de Dominique Bourrel. Dominique Bourrel, vous êtes directeur du Centre de recherche français de Jérusalem. Vous l'avez été entre 1996 et 2004. Vous avez été professeur à l'université de Berlin, l'université Humboldt. Vous êtes un grand chercheur. Je vous ai connu à Jérusalem. Vous êtes l'auteur de deux monumentales biographies, l'une consacrée à Moses Mendelssohn, l'autre à Martin Buber. Mais de vous, on ne sait pas grand-chose. Car vous ne parlez jamais de vous.
Non, vous avez raison, mais parce que quand vous faites un livre sur Mendelssohn ou un livre sur Buber, c'est pas un livre...
Qui font chacun à peu près 2000 pages.
Oui, mais dans ces cas-là, si les gens le lisent, c'est pas pour savoir ce que pense Bourrel ou qui est Bourrel. Donc, faut effectivement essayer de pas mélanger les gens.
Oui, mais je pense qu'il y a beaucoup de Bourrel dans chacun des deux livres.
Non, vous avez raison, mais pourtant, j'ai essayé le plus possible d'en enlever, parce qu'encore une fois, c'est déjà des gros livres, comme vous l'avez signalé. Si en plus, il faut parler de soi, alors ça, c'est un peu plus embêtant, à mon avis.
Comment s'est passée votre enfance et pourquoi ce goût pour les archives ?
J'ai eu une enfance tout à fait extraordinaire, merveilleuse et dans un milieu d'imprimeurs, de papetiers, puisque la famille de ma mère vient des papiers La Fuma et donc c'était des papiers extrêmement connus à l'époque jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale et il y avait beaucoup d'érudits, d'érudits locaux et un éditeur de Pascal qui est La Fuma, quelqu'un qui a édité aussi le Zohar comme imprimeur. Et puis aussi dans la famille de mon père, il y avait des imprimeries. Donc il y a toujours eu beaucoup de livres à la maison, mais moi j'ai eu justement d'abord une petite allergie. Je préférais le football et le rock'n'roll. Et puis il y a un moment où quand même on est rattrapé probablement par cela.
Dans quelle culture avez-vous été élevé ?
J'ai été élevé dans une culture très ouverte, catholique, française, un peu provinciale. Mais comme je suis né à l'étranger et que mon père était un eurocrate, et je dis ça de manière positive bien évidemment, j'ai été élevé en tout cas dans les deux cultures, entre celle de la France et celle de l'Allemagne.
Comment avez-vous appris l'hébreu ?
J'ai appris l'hébreu lors de ma maîtrise que j'ai écrite grâce à Heinz Wissmann à Heidelberg, donc il y a très longtemps, quand j'étais chez Gadamer, et après ça n'a jamais
arrêté.
C'est
pas rien ça, Gadamer, Heinz Wissmann.
C'est-à-dire j'ai une chance absolument inouïe, j'étais exactement dans les années 70 au confluent de Levinas et de Wissmann. C'est-à-dire Levinas était titulaire de la chaire de métaphysique et philosophie générale à la Sorbonne, quand je faisais ma licence de philo, et Wissmann enseignait ce qu'on appelait là, à l'époque l'allemand philosophique. Et donc j'ai voulu le plus vite possible partir à l'étranger pour continuer mes études, et donc j'ai fait une grande partie de mes études en Allemagne et puis un peu aux États-Unis.
À quel type de philosophie germaniste vous êtes-vous nourri ? Êtes-vous un enfant des Lumières ?
Je suis absolument un enfant des Lumières parce que grâce justement à la précaution de certains grands maîtres comme Gadamer, je voulais traduire Hegel comme on veut le faire quand on est jeune. J'étais à Heidelberg, et je trouvais que les traductions, il y en avait qu'une à l'époque, celle de Jean Hippolyte, que sa traduction de Hegel n'était pas très bonne. Je savais, les mauvaises langues disaient qu'il avait appris l'allemand en traduisant Hegel, ce qui était à mon avis un peu exagéré, mais il l'avait publié pendant la Deuxième Guerre mondiale, et ma famille venant du Vercors, on m'avait expliqué que pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait des gens qui faisaient tout à fait autre chose que de traduire Hegel, et donc je me suis dit, très bien, je vais aussi, puisque je savais un peu l'allemand, retraduire Hegel, et puis alors une fois, je me souviens très bien de ce moment-là, je racontais à Gadamer, on revenait d'un congrès Hegel à Stuttgart, on était dans le même wagon, et très gentiment, il me dit, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Quels sont vos projets? Je lui dis, je vais traduire la phénoménologie de l'esprit de Hegel. Donc, vous voyez, j'avais les cheveux aux épaules, je devais avoir 23 ans, 24 ans, des bagues à tous les doigts, enfin, parce qu'il n'y avait pas de piercing à l'époque. Et à ce moment-là, il me regarde et il me dit, ah, c'est une très bonne idée, vous avez bien raison. Et puis, alors, il me regarde après, et puis il me dit, mais pour traduire la phénoménologie de l'esprit de Hegel, il faudrait l'avoir comprise. Et il me regarde et il me dit, qui d'entre nous peut affirmer quelque chose comme ça. Et donc là, je me suis dit, bon ben, on va laisser Hegel dans le placard, ce qui est un peu le cas jusqu'à aujourd'hui. Et du coup, je faisais déjà une maîtrise sur l'Aufklärung et sur les Lumières allemandes. Et donc, je suis resté pendant longtemps dans cette philosophie-là. Et puis après, je suis tombé dans cette histoire juive allemande, cette pensée juive allemande, cette civilisation juive allemande.
Comment alors ?
Parce que je commençais justement à Heidelberg avec Mendelssohn. Et puis alors là, et après, c'était pas difficile de les suivre jusqu'à Gershom Scholem, que j'ai bien connu, jusqu'à Franz Rosenzweig, et tous ces auteurs-là, dont Lévinas nous parlait quand même à la Sorbonne, souvent pas à regret, mais de manière discrète, puisqu'il faisait de la philosophie générale, mais il savait bien, à commencer par Husserl et d'Heidegger, dont il parlait beaucoup, quand nous étions quelques-uns à être intéressés par cette pensée et cette civilisation et cette génialité juive allemande, puisqu'en réalité, comme vous savez, moi je m'intéresse plutôt aux juifs heureux, et ces juifs allemands. Nous, on connaît la fin de l'histoire, mais pour un historien, c'est pas le problème. Ça a été une efflorescence culturelle, une génialité, une prodigalité, un génie du judaïsme, précisément dans sa partie allemande, et c'est à ça que j'ai consacré ma vie.
Alors, il faut peut-être revenir sur l'itinéraire d'Emmanuel Lévinas pour éclairer votre propre démarche méthodologique et historique, et votre désir de parler des Juifs heureux, Mendelssohn et Buber. Car Lévinas a vécu donc sa jeunesse à dans les universités allemandes, a compris très tôt l'avènement du nazisme, contrairement à son maître qui était Heidegger. Pourquoi n'avez-vous pas été contaminé, entre guillemets, par la pensée de Heidegger, Dominique Bourrel?
Ben, vous avez tout à fait raison, parce qu'effectivement, comme je m'occupais aussi de penseurs juifs, assez vite, Antionas et d'autres, j'ai mesuré, bien sûr, ce caractère absolument incroyable de la cécité de Heidegger, de sa surdité, alors que moi, je suis absolument persuadé qu'il connaissait très bien ces pensées-là, puisqu'un professeur d'université allemande lit tout, sait tout, travaille tout le temps, et il est bien évident que quelqu'un comme Heidegger devait avoir lu Rosenzweig, avoir lu Hermann Cohen. En plus, c'était des auteurs extrêmement connus à l'époque, et pas seulement dans les milieux académiques. Et d'ailleurs, son débat très célèbre avec Cassirer à Davos montre bien qu'il avait un accès direct avec ces pensées-là. Donc là, je dois dire que...
Donc des penseurs qui déjà stigmatisaient l'avènement du national-socialisme.
Bien évidemment, des penseurs dont Heidegger savait très bien...
Et qui sont aujourd'hui beaucoup trop peu connus.
Absolument.
Que vous contribuez à réhabiliter, mais qui sont très peu connus.
Des penseurs dont Heidegger savait très bien que du jour où Hitler allait arriver au pouvoir, ces gens-là allaient être d'abord sortis des bibliothèques, après on allait brûler les livres, et ensuite on allait brûler les hommes, avec la célèbre citation de Heine, que tout le monde connaît. Quand on commence à brûler des livres, on va bientôt brûler des hommes. C'est une citation de Heine dans les années 1830-1840, citation incroyablement prophétique, et qui pose d'ailleurs une question aussi, comment tout d'un coup il y a une espèce de préscience comme ça à plusieurs décennies d'avance, quoi. Comment on peut écrire quelque chose comme ça? Et c'était une phrase qui était d'ailleurs extrêmement connue. Heine est un des auteurs les plus connus en Allemagne à cette époque. D'ailleurs, il est aussi, alors qu'il était converti, traduit en hébreu très tôt. Et donc, si vous voulez,
Alors, comment expliquez-vous cette cécité? Comment... Rappelons que Heidegger avait pour maître Husserl.
Tout à fait, qui était un juif allemand.
Qu'au moment où il est devenu recteur de l'université de Freiburg, il n'a pas aidé Husserl à essayer d'arranger son sort. Il ne lui a même pas autorisé à aller travailler dans la bibliothèque, puisque le sort des Juifs, c'était de rester chez eux et de ne plus aller du tout dans l'espace public. Comment expliquez-vous cette décision, car il n'y a pas d'autre terme.
Vous avez tout à fait raison. Et ce qui est encore pire, c'est que ces fameux cahiers noirs qui ont fait couler beaucoup d'encre et qui continuent d'être publiés, comment en plus lui-même...
Alors les cahiers noirs, il faut préciser...
Alors les cahiers noirs sont les livres qui ont commencé dans la grande édition d'Heidegger, qui sont parus en allemand depuis 1 ou 2 ans, et il y a au moins 4 volumes. Donc, c'est-à-dire que Heidegger a laissé volontairement ces textes-là dans ses papiers. C'est-à-dire qu'au moins...
En espérant que ses fils allaient un jour les publier.
En sachant très bien que ça allait être publié et que ça allait probablement provoquer des polémiques, et c'est ce qui est tout à fait le cas. Alors d'abord, dans la vie des hommes, il y a parfois quand même de l'imprévisible, donc on n'a pas d'explication à tout, hein, parce qu'on pourrait bien sûr le ramener à des explications simplement petites, qu'il avait envie d'être acteur, qu'il voulait une voiture noire, qui est avec 2 motards, enfin des explications qui valent aussi pour certains d'intellectuels qu'on a connus après. Mais je ne crois pas du tout, je pense qu'il y a là d'abord une cécité et une surdité, mais absolument fondamentale, probablement aussi une incompréhension.
Alors dû à un élément constructive de la culture allemande que vous connaissez très bien, Dominique
Borel. Je ne crois
Borel.
Pas du tout, justement, parce que cette culture allemande, elle allait plutôt dans l'autre sens. Elle était plutôt une culture juive allemande. Elle était une culture où, justement, on devenait presque meilleur juif en étant un Allemand et meilleur Allemand en devenant juif. Avec, effectivement, comme disait Gershom Scholem, une espèce de cécité partagée. Les Juifs pensant qu'il suffisait d'avoir des prix Nobel et d'avoir quelqu'un comme Einstein et tant d'autres dans son université pour être accepté, alors que finalement c'est le contraire qui va se passer. Mais je ne veux pas ramener ça, bien sûr, simplement à des problèmes bêtement de jalousie administrative, de jalousie universitaire, puisqu'en réalité, quand on regarde de près, on voit que cette grande pensée juive allemande et cette grande symbiose, je préfère pas parler de passion. Passion, parce que c'est une passion dans les deux sens. Il y a une passion amoureuse, et puis il y a la passion du Christ, il y a la passion dramatique qui fait que ça se termine comme on sait que ça va se terminer. Je pense qu'il y a un secret là. Je pense qu'il y a un secret, il y a de l'indicible. Il y a quelque chose dont on ne pourra jamais rendre compte. Et c'est pour ça que je préfère travailler sur les Juifs heureux et publier des lettres, même de professeurs, entre guillemets, de troisième zone ou de quatrième zone, plutôt que, comme on est entre amis ici, plutôt que de continuer à accumuler les livres sur le Zyklon B au Ravensbrück. Parce que je pense que quand on travaille sur cette question-là, eh bien, c'est une question qui concerne plutôt les goyim. Plutôt, c'est pas de l'histoire juive. C'est bien évidemment aussi de l'histoire juive. Faut pas nous faire dire ce qu'on n'a pas dit. Mais en réalité,
vous êtes goy, vous.
Absolument. Nul n'est parfait. La grandeur du judaïsme, elle est pas là-dedans. Donc, je pense qu'il faut beaucoup plus s'intéresser à la génialité, à la positivité du judaïsme. Et permettez-moi de vous dire que j'ai toujours l'impression que tous ces livres sur l'antisémitisme dans toutes les langues, j'ai passé la moitié de mes études en Allemagne, donc là vous avez des centres pour la recherche d'antisémitisme. Quand les Allemands savent pas quoi faire de leur argent, on fait un centre sur la recherche sur l'antisémitisme et l'Holocauste.
Bah c'est pas mal, oui, on a peut-être des leçons à prendre, nous Français.
Ça on est tout à fait d'accord, mais on veut convaincre qui en Allemagne? On veut convaincre, on a une illusion qui est une illusion d'homme des Lumières, qu'on arrive par
Dominique
des livres
Borel
à convaincre
de
des gens.
De contredire jamais. Votre optimisme, vous avez vu les résultats des dernières élections dans trois Länder en Allemagne avec la montée de l'extrême droite.
Vous avez tout à fait raison, mais justement ça montre bien que les dizaines de musées, les centaines et les milliers de livres sur Auschwitz et sur l'antisémitisme n'ont servi à rien.
Mais ça serait peut-être encore pire si ce travail d'information n'avait pas été fait, si ce travail de mémoire qui n'est pas totalement accompli en France et qui n'est pas aussi magnifiquement mené qu'en Allemagne n'avait pas été
Non, vous avez raison. Donc là, il y a deux cas différents, entre la France et entre l'Allemagne. Et puis ce racisme-là en Allemagne, en tout cas, épargne totalement le monde juif. À cela près que, justement, et c'est ça qui va être passionnant, de voir comment les Allemands vont gérer ça, ces Syriens et tous ces pauvres réfugiés qui arrivent en Allemagne, pour eux, bien sûr, le grand ennemi, c'est la pauvreté, la guerre, Bachar. Mais quand ils arrivent, ils disent, en deuxième plot, si je puis dire, il y a les sionistes. Et à ce moment-là, les Allemands leur disent « Attention, pas de ça ici ». Parce que justement, vous allez apprendre ce qui s'est passé. Et là, ça va être extrêmement intéressant de voir comment, et si ça se passe, comment ces Syriens et tous ces gens qui viennent du Moyen-Orient, qui n'ont la plupart du temps jamais vu un juif devant eux, qui pensent que c'est tout ce qui va mal est de la responsabilité des juifs, là, grâce à l'Allemagne, en Allemagne, ils vont apprendre que justement, il faut changer d'idéologie et que cette idéologie-là n'est pas, est bien évidemment insupportable et honteuse. Non, simplement, je pense que il faut pas que nous, et ceux qui font profession d'être intellectuels, pensent que nous puissions penser qu'avec nos livres, on va convaincre des gens qui pensent pas comme nous. Ça, on n'y arrivera pas. On arrivera à présenter à certaines marges de la. Mais l'idée, c'est arrivé qu'une seule fois, et d'ailleurs, c'est le CNRS qui a publié son livre, ce qui a tout à son honneur, un pharmacien. Vous vous souvenez, qui s'appelle, je crois, Jean-Claude Pressac, et qui s'est occupé du Zyklon B, qui était plutôt négationniste, et qui, à la fin, s'est dit, finalement, j'avais tort, et c'est vrai que ce Zyklon B, ça a servi à tuer des juifs, etc. Mais quand vous suivez la carrière de Garaudy, la carrière de Forisson, la carrière même de Chomsky, dont les parents et dont la famille elle-même est morte à Auschwitz, vous voyez bien que jamais on n'arrivera à les convaincre. Alors du coup, autant faire 800 pages sur Walter Benjamin, autant faire 800 pages sur Franz Rosenzweig et de publier toute cette culture qui, encore une fois, en France est d'ailleurs maintenant bien connue depuis quelques années. Mais quand moi j'ai commencé mes études dans les années 74-75, il n'y avait aucune traduction, il n'y avait aucun de ces livres-là. C'était vraiment une science secrète et c'est la raison pour laquelle, je dirais à part Wissmann, Moses, Bollack et quelques personnes comme ça. À ce moment-là, Paul Celan était un inconnu célèbre, n'est-ce pas? Aujourd'hui, il est en pile dans toutes les librairies, mais à l'époque, c'était c'était vraiment, comme on dit souvent, on était trois au monde à le connaître, et il y en avait déjà deux dans cette salle, quoi.
Vous venez d'évoquer le courant négationniste, n'avez-vous pas l'impression, il était à bas bruit depuis une bonne décennie, n'avez-vous pas l'impression que nous vivons, en France, une sorte de renouveau, non pas du courant, entre guillemets, intellectuel négationniste, mais d'un terreau qui renaîtrait?
J'ai pas l'impression, mais j'ai peut-être une mauvaise impression. Je fréquente peut-être pas suffisamment ces gens-là, et je lis peut-être pas suffisamment leur prose. Je vois bien que ce qu'on appelle les réseaux sociaux, que tout ça, d'après ce que j'entends, est plein de cela. Est-ce que ça a vraiment changé? Est-ce qu'il a pas été toujours latent, et que maintenant simplement, effectivement, les barrières ont sauté? Je pense que quand même, d'après mes informations, on a quand même un arsenal législatif qui permet de coffrer immédiatement toute personne qui dirait une ânerie pareille. Et d'après ce que j'ai entendu, y compris
pas
même...
sur Internet. Hein.
Ah, peut-être pas sur Internet, oui, mais alors, bon, ça c'est un autre problème, là, mais je pense qu'on va y arriver. D'après les informations que j'ai, même la nouvelle génération du Front National n'arriverait jamais à dire des bêtises comme ça.
Vous avez évoqué Heidegger, vous avez évoqué votre maître Emmanuel Lévinas. Nous n'avons pas encore évoqué cette histoire de culpabilité. Comme vous le savez mieux que quiconque, Dominique Bourrel, Karl Jaspers a essayé de demander, presque de harceler Heidegger à la fin de la guerre, puisqu'il a été désigné par les tutelles franco-allemandes pour essayer de mener une sorte de procès intellectuel envers Heidegger, et Heidegger n'a pas accepté de se dire coupable. Aujourd'hui, qu'en pensez-vous avec le recul du temps? Et cette histoire de culpabilité perdure-t-elle à l'intérieur de la mentalité allemande?
Alors, donc, il y a justement deux choses différentes dans cette affaire-là. Alors, pour Heidegger, je pense qu'elle a effectivement totalement échoué. C'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à... Et c'était pas le seul. Hein. Je pensais, par exemple, à un autre grand médiateur de la pensée allemande en France, qui était Joseph Rovan, qui traduisait Heidegger le matin, faisait le soir des faux papiers... Et a terminé à Dachau. Donc, je veux dire, on aurait quand même pu s'attendre, et était après, avec mon père d'ailleurs, dans la réconciliation franco-allemande dans les années 48, 49, 50. Etc.
Donc, rien que. Parce que votre père a joué un rôle.
Bien évidemment, c'est pour ça que je suis
né
en Allemagne.
On éclaire mieux vos pistes passionnelles.
Non, mais je suis né en Allemagne, et parce que les parents, dans ces familles françaises de sous-chiens, comme on dit, les familles avaient fait trois guerres contre l'Allemagne. Et donc, un grand-père officier qui avait été blessé en 14, qui avait été en camp de prisonniers en 40, quand son fils à lui, donc mon père, avait 20 ans, on a dit maintenant on va arrêter. Donc la première des choses qu'il faut faire, c'est bien évidemment aller en Allemagne pour faire la réconciliation franco-allemande. Et il y avait là Alfred Grosser, Joseph Rovan, Alain Poher et toute une jeune équipe autour de la revue Documents et Documenté qui donc ont irrigué, ont donné les premières bourses. Parce que ça, forcément, j'ai vécu moi ça à l'époque, j'étais gamin.
Et c'était une sorte d'interdit culturel, effectivement.
Absolument, mais en plus, imaginez-vous, ma mère me racontait...
Même apprendre l'allemand,
Et en plus, c'est des gens qui viennent de Lyon. C'est des gens qui viennent du Vercors, de Grenoble, de Voiron, dans l'Isère. Et quand on leur dit, qu'est-ce que vous faites comme métier? Ah ben, on habite l'Allemagne. En 48, 49, 50, vous imaginez ce que c'était? C'était quelque chose de tout à fait improbable. Et il y a des gens dans ma famille qui, bien évidemment, se sont mariés avec des Allemandes. Eh ben, il a fallu qu'on dise pendant 15 ans que les gens étaient suisses ou luxembourgeoises. Avant de crasser le morceau, au bout du deuxième ou troisième petit enfant, on a dit, mais écoute, cette dame, en réalité, ses parents viennent de Heidelberg. Heureusement, ils étaient du bon côté. Et souvent, ces familles-là, c'était quand même des familles allemandes qui avaient été du bon côté dans la résistance allemande, etc. Mais ce travail sur la culpabilité allemande a été fait en Allemagne de manière remarquable. Il faut être très honnête, quoi. Ça a vraiment été bien fait. Ce qui va être intéressant, c'est de savoir comment ça va se passer avec la deuxième et la troisième génération, donc justement nos étudiants. Et parce que vous savez, en Allemagne, il y a par exemple quelque chose de tout à fait extraordinaire qui devait venir en France, m'a-t-on dit, qui est l'idée des Stolpersteins, c'est-à-dire des carrés, des pavés qui sont sur les trottoirs, devant les maisons des gens qui habitaient là. Eh bien, ces carrés-là et ce travail-là, il est fait par des gosses de première et de terminale avec leurs profs d'histoire, leurs profs d'allemand. Et donc ça, vous comprenez, c'est des gens à qui on va pas pouvoir raconter n'importe quoi. Je veux dire, ces gosses qui auront passé avec leurs profs d'histoire dans les archives à voir que Madame Blumenthal et toute la famille Blumenthal qui habitait Unter den Linden à cette adresse-là est mort en camp de concentration, même si c'est des gens de droite, même si c'est des gens qui veulent pas voir arriver 1 million de Syriens chez eux, ils vont pas quand même raconter des âneries, que c'est de la faute des juifs, etc., etc. Donc ça, je pense que ce travail qui a été fait en Allemagne a été fait de manière absolument remarquable, même si on peut toujours dire que c'était pas assez, qu'il faut continuer. Mais c'est même pas le cas de certains de mes bons amis et de mes étudiants aussi israéliens, qui pensent qu'effectivement ce travail a été fait. Eux-mêmes, d'ailleurs, comme vous savez, une des plus grandes villes où il y a des Israéliens, c'est l'Allemagne, c'est Berlin. Il y a 20 000 jeunes Israéliens qui font tous les métiers du monde, depuis le premier violon de la Philharmonie de Berlin, sans parler de Barenboim, bien évidemment, jusque dans tous les architectes, les musiciens, etc. Donc, vous voyez, il y a eu un déclic, là, il y a la troisième génération, si vous voulez. Ça ne veut pas dire qu'ils ont oublié, bien évidemment. Mais en tout cas, ils ont trouvé que le travail avait été suffisamment fait et bien fait pour revenir habiter maintenant, en tout cas à Berlin. Je ne sais pas si dans d'autres villes allemandes, plus catholiques, comme Munich, etc., le travail a été fait de la même manière. Ça, je ne peux pas en parler, puisque je connais ça beaucoup moins bien.
Pensez-vous que l'attitude d'Angela Merkel vis-à-vis des réfugiés, elle apparaît quand même comme la personnalité européenne qui a un discours d'accueil, d'hospitalité à la Derrida, enfin pour reprendre les concepts philosophiques des philosophes qui vous sont chers, Dominique Bourrel, pensez-vous que cette attitude soit motivée de manière plus ou moins consciente par justement cette culpabilité allemande vis-à-vis de la Seconde Guerre mondiale?
Oh ben certainement, surtout qu'en plus, comme vous savez, elle vient de la RDA, et en RDA, tout ça a été caché encore plus pendant des années. D'abord, ils n'ont jamais payé un rond dans la Wiedergutmachung, dans les réparations, et puis deuxièmement, l'idée de cette RDA, c'était que les anciens nazis, les anciens fascistes étaient en RFA, et que eux-mêmes n'avaient rien à se reprocher, et que la RDA était quelque chose qui était tout à fait pur de cette idéologie-là. Et en réalité, petit à petit, on a bien évidemment appris qu'il n'en était rien, et on a retrouvé là-bas d'anciens nazis, de gens qui avaient caché leur identité, caché leur passé, etc. Donc je pense que ça joue sûrement un rôle, comme tous les gens de cette génération, quoi. Ça, je suis... Alors, à quel moment est-ce que c'est plus ou moins conscient, pas conscient? Est-ce qu'il n'y a pas aussi des problèmes bêtement, ce qui n'est pas gentil, économiques, de retraite, qu'on a besoin de 800 000 personnes pour payer la retraite? Certainement, dans les relations des gens avec leur mémoire, avec leur passé, il y a toujours différents niveaux, comme vous savez.
Nous allons écouter la voix d'Emmanuel Lévinas. C'était au micro de Philippe Nemo. Il va évoquer le temps et l'autre, la relation à autrui, la question de la solitude de l'être. C'était dans Les Chemins de la Connaissance sur France Culture le 5 mars 1981.
Il y a la recherche de la relation avec autrui ayant pour élément le temps. Comme si le temps était l'ouverture par excellence vers autrui.
Les premiers mots de ces conférences sont les suivants, je lis. Le but de ces conférences consiste à montrer que le temps n'est pas le fait d'un sujet isolé et seul, mais qu'il est la relation même du sujet avec autrui. Alors c'est une façon étonnante de commencer un livre, car ça suppose que la solitude soit en soi un problème.
La solitude était le thème très existentialiste à l'époque. L'existence était surtout le désespoir, la solitude, l'angoisse. La solitude dans l'angoisse, l'isolement par l'angoisse dans l'angoisse. C'était le thème répandu déjà. Et dans ce livre, il y a une tentative de sortir de la solitude. Et la première sortie étudiée est une sortie vers le monde, dans la connaissance, le savoir. Et un effort consistait à montrer que, et c'est un thème qui m'est encore très familier maintenant, que le savoir est en réalité une immanence et qu'il n'y a pas de rupture de l'isolement de l'être dans le savoir. Que dans la communication du savoir, on se trouve à côté d'autrui, on ne se trouve pas directement en rapport avec autrui. Et le rapport direct avec autrui n'est pas non plus la thématisation d'autrui et la considération d'autrui comme si c'était un objet connu. Il s'agit de savoir si le fait d'être n'est pas ce qu'il y a de plus privé. L'existence, c'est la seule chose que je ne peux pas communiquer. Je peux la raconter, mais je ne peux pas partager mon existence. La solitude apparaît ici comme l'isolement contenu dans l'événement même d'être.
Vous souriez, Dominique Bourrel, en entendant Emmanuel Lévinas. Il vient de dire des choses très importantes, et dont une qui est peut-être une des colonnes vertébrales de votre existence. Le savoir est une immanence de l'être, et on est à côté d'autrui dans cet océan du savoir. Est-ce que vous souscrivez à ces propos ?
Oui, sauf qu'à un moment, justement, ce savoir sort de lui-même. Et là, on a eu l'expérience extraordinaire. Je souriais à cause de la voix. Cette voix que j'entendais, vous vous souvenez, la thèse de Derrida, je crois, le premier texte de Derrida s'appelait, un des premiers textes, « La voix et le phénomène ». C'est-à-dire que c'est une voix qui fait justement ce pont, qui fait sortir du savoir et qui fait que là, vous rencontrez autrui. Là, on est, c'est comme s'il était en face de moi. Quand on entend la voix de Lévinas. Et en plus, pour lui, c'est quelque chose qu'il a connu dans sa chair, puisque autrui, c'était justement l'Allemand, le chrétien, ceux qui avaient assassiné une partie de sa famille, etc. Donc, vous voyez, on est quand même très vite sorti simplement du savoir pour se retrouver en face d'autrui. Et pour quelqu'un qui a médité comme lui, tellement longtemps sur le « je » et le « tu » de Buber, parce que le Buber et Rosenzweig ont joué un rôle central. Il l'a d'ailleurs toujours dit, il l'a écrit, ont joué un rôle central dans son travail. Et je pense que peut-être que le savoir peut être à côté de soi, mais la communication de ce savoir, mais l'échange, le partage de ce savoir, alors là, il fait rentrer dans l'altérité, parce que sinon, qu'est-ce que vous avez à donner ? Alors le problème de savoir, ça serait de savoir si l'amour est un savoir. Mais à part l'amour, tout le reste, c'est du savoir, ce que vous donnez. En tout cas, c'est du don. Et ce don-là, ça me rapproche, bien sûr, de l'altérité.
Une vie se réduit-elle au savoir, ou une vie est-elle magnifiée par... L'apprentissage du savoir, c'est la question qu'on peut se poser quand on lit votre monumental ouvrage sur Moses Mendelssohn.
Non, vous avez raison, mais justement, le savoir, vous l'apprenez toujours par autrui. C'est toujours quelqu'un qui vous l'a donné, que ça soit dans un livre, que ça soit dans un cours, que
enfin,
ça soit...
Prenons l'exemple de Moses Mendelssohn.
Alors Mendelssohn...
Il était particulièrement apte au savoir, et d'autre part, il a eu un savoir dès sa plus jeune enfance qu'il a incorporé. Tout le monde est-il doué pour... intégrer, incorporer un savoir et lui-même être producteur plus tard de savoir.
Non, vous avez raison, c'est tout le problème du rôle de l'intellectuel, c'est-à-dire de savoir est-ce que il peut dépasser, ne pas garder uniquement pour lui, même ce que lui ne connaît pas, c'est-à-dire ce que vous avez à l'intérieur de votre culture, il faut d'abord qu'elle arrive aussi, j'allais dire, à la surface, avant que vous puissiez la communiquer, et surtout, comme vous dites, avant que vous puissiez la mettre en symbiose, que vous pouvez l'articuler avec un autre savoir, ou avec simplement ce que vous êtes, le judaïsme, le christianisme, votre langue maternelle. C'est comme la langue maternelle. Il y a un moment où vous commencez à l'apprendre tout doucement. Et à chaque fois qu'on a vu des enfants, par exemple, vous savez, les enfants dans leur bas âge ne comprennent pas qu'il y ait plusieurs langues. Et pour les gens qui sont entourés de petits-enfants, petit à petit, ils comprennent que vous parlez une autre langue qu'eux. Et que même il y en a plusieurs. Les premiers enfants disent « Mais pourquoi tu continues de parler l'anglais ?» Alors vous ne parlez pas l'anglais parce que vous parlez le français ou l'espagnol ou l'allemand. Donc c'est exactement pareil avec le savoir. Quand vous arrivez, quand il arrive à parvenir à un certain niveau dans votre individualité, et le fait toujours au contact de quelque chose d'extérieur. La grande idée de Lévinas, c'était justement qu'il faut être deux pour faire un enfant, il faut un spermatozoïde et un ovule, il faut qu'il y ait du contact. Sinon, c'est quelque chose d'autiste qui tourne, il le dit bien, la solitude, c'est-à-dire que ça tourne, l'unique est sa propriété, avait écrit Stirner, c'est-à-dire sinon ça tourne en rond. Et je crois qu'un des grands enseignements de Lévinas est probablement parce qu'il était justement, lui, en passion, et en passion d'abord avec la pensée allemande, et puis après en passion déçue, en passion dramatique, avec autrui. Il l'a vécu dans sa chair, d'ailleurs, vous entendez, dans le grain de la voix. Il essayait toujours de faire très attention à la manière dont il parlait. Il nous a fait le privilège, Stéphane Moses et à moi, de nous faire une préface à nos livres qui sont sortis en même temps. L'un était la traduction de la Jérusalem de Mendelssohn, et l'autre était le grand livre de Stéphane Moses sur Franz Rosenzweig. Et donc, on voyait bien, il avait le début et la fin, presque, enfin, de cette histoire judéo-allemande. Mais on voyait bien, même l'idée de faire une préface, même l'idée de vous recevoir, d'accepter, de dire, bah, écoutez, je vais un peu me livrer. C'est ça, il aurait pu faire tout à fait autre chose, il avait autre chose à faire. Et c'était précisément sur des penseurs allemands, sur des penseurs juifs allemands. Et donc, je pense qu'il a été lui-même pénétré, et maintenant, on ne pourra plus voir ça, parce que en Israël, c'est une toute autre histoire, vis-à-vis de l'Allemagne, vis-à-vis du judaïsme, aux États-Unis, c'est pareil, mais il reste encore quand même...
Il n'y a plus ces grands maîtres.
Oui, enfin, vous savez, à l'époque, ces grands maîtres, maîtres n'étaient pas aussi considérés comme des grands maîtres. Donc il faut aussi laisser du temps au temps, comme disait le président Mitterrand, et il faut aussi laisser justement la patine s'installer. Et je pense par exemple aussi à Jean Kelevitch, donc on relit beaucoup maintenant, qui à l'époque était la coqueluche des étudiants par sa manière de parler, et qui pourtant avait fait un rérem, avait fait un interdit sur la pensée allemande. Alors pour les gens de notre génération, c'était absolument incroyable, puisque la philosophie, c'était la philosophie allemande. On ricanait, de manière idiote bien évidemment, mais on ricanait quand on nous parlait de Bergson, parce qu'on savait pas qu'il était juif, quand on nous parlait de Jean Haber et quand on nous parlait de Maine de Biran. Alors qu'après, forcément, au fur et à mesure où on a grandi, on s'est aperçu qu'il y avait aussi des grandes pensées dans cette affaire-là. Et comme toujours, un peu de pensée allemande et un peu de pensée juive, et la plupart du temps, un peu plus de ça et de cela. Et ce qui n'est pas étonnant, puisque la pensée, là aussi, elle ne tourne pas en rond. Donc même quand on lit Brunswick, même quand on lit Jean Val, ah, les gens vous disent, mais le judaïsme ne joue aucun rôle. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? On est en train aujourd'hui de publier un livre sur Pierre Boutang. Pierre Boutang était quelqu'un dont on a toujours dit qu'il mesurait les crânes de ses étudiants. Et comme vous savez, il a eu une indignité nationale. Et il n'est rentré que très tard à l'université.
Donc
et...
philosophe à la Sorbonne,
voilà,
et,
tout à fait.
Et taxé d'extrême droite. Mais très grand philosophe.
Secrétaire de Maurras, et il commençait ses cours par des citations de Buber. Il était et à Turgot, où il avait une série d'élèves qui étaient juifs, sont allés le voir immédiatement en disant « Mais qu'est-ce que c'est ?» Et là, d'ailleurs, pour la première fois, et c'est ça qu'on aurait attendu d'Heidegger, il a dit « Je me suis trompé ». Il a dit, j'ai été taré. C'est incroyable que quelque chose comme ça me soit arrivé. Et d'ailleurs, il a encore une fois parlé de ça, expliqué ça, et Buber, Rosenzweig, c'est à ce point même que je peux aussi, puisque vous aimez les petits secrets, c'est pas un secret, quand je cherchais un patron de thèse pour Moïse Mendelssohn, donc il fallait quelqu'un qui sache un peu l'hébreu, qui ait en tout cas une culture religieuse, quelqu'un qui bien évidemment parla parfaitement l'allemand. J'ai hésité, je savais pas, je trouvais pas, j'avais passé 5-6 ans en Allemagne et aux États-Unis. Et on m'a dit, je me souviens plus qui me l'a dit, ça doit être un de mes copains de la Sorbonne, de Paris, un étudiant avancé comme moi, il a dit, Boutang, tu devrais aller voir Boutang. Boutang est tellement fou qu'il doit connaître très bien ces choses-là et c'est sûrement un interlocuteur valable pour ces affaires-là. Et là, alors, je me suis dit, c'était quand même un peu fort de café, quoi, parce que j'allais quand même pas aller demander une bourse pour aller à Jérusalem ou travailler dans les archives à l'université hébraïque avec comme patron de thèse Pierre Boutang. Et du coup, j'ai trouvé d'ailleurs un autre grand seigneur de la vie intellectuelle, qui était Pierre Chaunu, qui, comme vous savez, a abjuré le catholicisme pour le protestantisme, comme il venait bien sûr d'Alsace et de Lorraine, savait parfaitement l'allemand, et comme il était un bon calviniste, savait aussi pas mal l'hébreu, et donc c'est avec lui, finalement, que j'ai fait ma thèse. Donc vous voyez, même, j'allais dire, venu du fond du drame, du fond de l'hostilité, était les secrétaires de Maurras, Boutang. Donc vraiment, mais tout d'un coup, justement, et c'est par là que j'avais commencé, il a pas dû oublier que c'est Jean Val qui est venu le chercher à la Gestapo. Jean Val est venu chercher Pierre Boutang à la commandanture en disant « celui-là, vous l'aurez pas ». Et donc là, tout d'un coup, c'est une toute autre histoire qui s'écrit. Comprenez ? Même quand on nous bassine en disant « mais non, Jean Val, c'est Kierkegaard, c'est ceci, il savait pas qu'il était juif, ou à peine, etc. » C'est une vaste rigolade, surtout pour cette génération-là. Comment peut-on dire à quelqu'un que le judaïsme n'a pas joué un rôle dans sa vie personnelle ? Donc ça, je crois que c'est très intéressant de voir comment, justement, par cette partage du savoir, par ce partage de l'intelligence, là, il y a une reconnaissance d'autrui.
Alors, vous nous faites connaître l'histoire intellectuelle et philosophique de la pensée judéo-allemande grâce à votre esprit de recherche et puis grâce à votre profondeur de vue et grâce au contexte historiographique que vous restituez admirablement bien, à la fois dans l'itinéraire de Mendelssohn, mais aussi dans celui de Martin Buber. On a beaucoup parlé de Lévinas qui fut votre maître. Quelquefois, la pensée produit aussi des conséquences dans l'existence. Ça a été le cas d'une partie des philosophes de la génération de Lévinas, comme Gershom Scholem, qui est parti vivre à Jérusalem, qui communiait, je pense, avec Martin Buber aussi dans cette idée d'un Moyen-Orient pacifié, d'une Jérusalem non pas céleste, mais possiblement une sorte d'université de tous les savoirs métissés, de culture arabe et de culture juive. Dans quelles conditions s'est élaborée cette utopie et était-ce vraiment une utopie, Dominique Bourrel ?
Alors moi, je pense pas. Je pense naturellement qu'il y avait une alternative, non pas au sionisme, mais au sionisme politique. Ce sionisme politique qui a été effectivement combattu par Buber, par Scholem, par toute cette
intelligence
juive allemande.
Mais il faut le rappeler avec force,
voilà.
Parce qu'ils ont attiré l'attention... des hommes politiques de l'époque en disant non, l'État ne sera pas viable dans ces conditions-là.
Absolument. Et puis si c'était pour faire un État comme les autres, c'était pas la peine. Il y a des débats avec Ben-Gourion qui sont homériques après la création de l'État. Et Buber a été toujours quelqu'un d'absolument fidèle à l'État d'Israël, à Jérusalem où il habitait, où il est parti vivre effectivement un peu plus tard en 1938. Là, je voudrais d'ailleurs le défendre.
Pourquoi
on va en dire un mot.
Pourquoi est-il parti?
Mais parce qu'il est pas d'abord parce que lui, il avait
comme Scholem. La...
Voilà. Oui, mais Scholem.
Pour les mêmes raisons.
Oui, mais Scholem est parti. Scholem arrive en 23. C'est-à-dire très tôt, où là le sionisme est aussi de la révolte contre le père, de la révolte de jeunes, etc. À partir de 33, Martin Buber, qui était un professeur à l'université de Francfort et à ce célèbre Lehrhaus fondé par Rosenzweig, il a dit mais on peut pas laisser tomber tout le monde. Vous comprenez, il y avait une question dramatique. Tous ces gens qui sont partis, ils ont dit mais alors on va laisser là une communauté juive avec des gens qui savent à peine pourquoi ils sont juifs. Le judaïsme pour eux, c'est ça passe par Jean-Sébastien Bach et Martin Luther et on va bientôt leur mettre l'étoile jaune, ce qui est arrivé un peu plus tard, comme vous le savez, on va brûler les ils savent pas pourquoi. Donc Buber, avec certains autres, des jeunes rabbins et par exemple le père d'Abraham Bourg, Joseph Bourg, qui a été un grand député de la Knesset, qui était un juif religieux et un juif allemand bien évidemment, il m'a dit mais monsieur Bourrel, un capitaine quitte le navire le dernier ayant été d'ailleurs Léo Beck, qui est aussi un grand homme, qui lui est allé avec sa communauté jusqu'à Theresienstadt et en est même ressorti pour habiter Londres après. Donc si vous voulez, il y avait effectivement cette idée que si on n'a pas d'accord avec les Arabes, cet État va être un État qui va continuer de faire la guerre à ses voisins. Et ces gens-là qui venaient de la Prusse et des États allemands, ils savaient ce que c'était. Là aussi, c'était comme dans les familles des Français sous chien. C'est des gens, on a fait la guerre déjà trois fois. On ne va pas recommencer, on ne va pas s'amener à Jérusalem avec un État pour commencer de faire la guerre.
Alors, ils ont produit des grands ouvrages intellectuels, mais pas une pensée politique féconde. Ils n'ont pas été écoutés.
Vous avez raison, mais c'est-à-dire que là, comme on dit, on ne peut pas de manière tragique, ça avait redistribué les cartes, vous comprenez, au temps qu'ils parlaient jusqu'en 45, où les Juifs étaient une minorité en Palestine mandataire. Il faut jamais oublier ça. Les Juifs étaient la majorité à Jérusalem à partir de la fin du 19e siècle, mais étaient une minorité. 20 ans, 30 ans après la déclaration Balfour, il y avait toujours une minorité de Juifs. Donc forcément, Buber et tout ce groupe de Brit Shalom, Bergman et Scholem disaient, écoutez, on n'est même pas à 50-50. Alors on va essayer d'abord de penser à un État binational, et on va pas faire deux États à côté, puisque nous, on est en minorité. Et donc, cette chose-là a effectivement, n'est pas passée dans, il y a eu un jeune parti politique qui s'est créé à ce moment-là, avec tous ces gens-là, et vous avez raison, qui a été après absorbé, mais vous comprenez, il y avait eu 6 millions de morts, il y a 1 million de personnes qu'il a fallu intégrer, et d'ailleurs, Buber était extrêmement en pointe dans ces combats-là, puisqu'il avait fondé un séminaire de formation permanente, c'était son grand truc, lui, c'était l'éducation permanente, la formation des formateurs, bien plus que les universités, contrairement à Scholem, pour lequel on a tous une admiration sans borne. Mais Scholem, c'était un prof, hein, et on n'a pas à médire des profs, mais il y a deux choses différentes.
Et Buber, c'était un maître.
Et voilà, absolument. Et Buber, c'était quelqu'un qui était en plus sur tous les fronts. C'est là où il est fascinant, un peu comme Mendelssohn. C'est un philosophe, c'est quelqu'un qui traduit la Bible, c'est quelqu'un qui a une importance politique, c'est quelqu'un qui écrit très bien. Je veux dire, c'est pas seulement quelqu'un qui est dans son petit domaine et qui est excellent. J'allais dire, c'est la moindre des choses d'être un excellent professeur et un excellent spécialiste. Mais avec ces rares hommes, vous avez affaire à des gens qui sont multicartes et qui ne lâcheront pas le combat jusqu'en Buber est mort en 65, encore un ou deux ans avant, il se bagarrait, il écrivait à Eshkol en disant mais attention, qu'est-ce qu'on fait avec les réfugiés, vous êtes complètement malade, on va avoir un peu comme le général de Gaulle, cette phrase qu'on cite toujours de manière tronquée, hein, quand on dit le peuple sûr de soi est dominateur, simplement deux phrases après, il explique, il dit justement, il va y avoir des colonies, il va y avoir de la résistance, qu'on va appeler nous de nouveau les terroristes et qui de l'autre côté seront la résistance, etc. Et cette phrase du général de Gaulle, ce discours du général de Gaulle doit être lu avec précision parce que c'est ce qu'on voit aujourd'hui à la télévision en Israël. Enfin, que la guerre ne s'est pas arrêtée, qu'elle continue et que pour l'instant, les deux côtés d'ailleurs sont dans une impasse. N'est-ce pas ?
Mais il n'y a pas de guerre.
Oui, enfin, il n'y a pas de guerre, il y a un état de guerre froide, larvé. Non, vous avez raison, pour l'instant, il n'y a pas de guerre. Alors parce qu'il y a des chars à tous les coins
de
rue.
C'est pas la peine de parler de la télévision, hein, Dominique Bourrel, puisque vous habitez la moitié du temps en Israël. Que pensez-vous de la situation et justement de cette impensée des intellectuels dès l'aube des années 40 et bien avant l'existence de l'État d'Israël? Que pensez-vous de la situation et de l'avenir de l'État d'Israël?
D'abord, y a la règle, je vais être obligé d'enfreindre la règle des gens du CNRS qui est de pas parler des choses qu'on maîtrise pas, parce qu'une chose est d'être très souvent là-bas et de voir la télévision et de lire les journaux, et une chose de connaître vraiment les forces en présence. Pour l'instant, ça va très mal. Pour l'instant, il y a un régime de droite, les universités sont en train d'être entièrement déconstruites. La seule pour laquelle il y a de l'argent, c'est une université qui est dans les territoires dits occupés, c'est-à-dire l'université d'Ariel. Il n'y a pas de gauche. La gauche est devenue complètement atone. Ils voulaient un pays comme les autres, ils l'ont, c'est-à-dire que toutes les intelligences sont parties faire de l'argent, et c'est des businessmen, et donc ils vont pas perdre leur temps. C'était un peu le modèle américain qui a été aussi... Alors, c'est pas le cas avec Obama, ni Condi Rice, etc., mais en règle générale, c'est ce qui se passe. Les gens brillants font tout, sauf de la politique. Donc, il y a ce syndrome-là. Et,
Donc, il y a une perte d'idéal par rapport philosophes que vous avez tant étudiés, rapport à la pensée de Buber,
bien évidemment,
de
mais
Scholem.
Justement, comme ça se passe tellement mal, ces philosophes recommencent maintenant à être lus, médités, retraduits. On vient de retraduire Je et tu. Tout ce qui se passe, par exemple, dans les domaines de l'éducation, dans l'éducation permanente, c'est du Buber. Vous avez des centaines et des centaines de gens qui le lisent, qui le méditent, etc. Donc, dans ces choses-là, les choses sont jamais, heureusement,
Même Anna Arendt
définies.
A été traduite en hébreu.
Voilà. Et
ça
vous
a
avez
mis
vu,
du temps, mais...
Vous avez vu que même votre amie Anna Arendt, qui pendant un moment était volontairement un peu méprisante et volontiers méprisante et sarcastique avec Buber, à la fin, elle dit finalement, c'est quand même un mensch. J'ai deux ou trois citations d'elle à reconnaître la grandeur, justement, de Buber, que c'était pas un faiseur, que c'était vraiment un vrai combattant. Et parce qu'il y a effectivement aussi un problème, Anna Arendt, la manière un peu, le ton dans Eichmann à Jérusalem, même si d'ailleurs elle dit des vérités, comme toujours, hein, quand elle décrit cette situation invraisemblable où les gens se parlent allemand plus vite entre Eichmann et les juges, puisque tout ce monde-là est bien évidemment passé par la culture allemande et l'université allemande, et qu'elle traite Gidon Hausner, qui vient de Lemberg, en disant « ce type est un Ostjude, il parle aucune langue », cette espèce de mépris qui avait d'ailleurs beaucoup agacé Scholem, comme vous vous souvenez, et en disant « mais on parle pas comme ça de ces gens-là ». Donc, pour l'instant, mais vous savez, on a toujours l'illusion de penser que c'est comme quand vous êtes au fond de la piscine, au fond de l'eau, quand vous donnez un coup, eh bien ça remonte. Donc, on n'a pas de raison, on n'a pas le choix, de toute façon, on n'a pas de raison de penser que ces gens-là vont pas trouver une solution, mais pour l'instant, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on la voit pas. Parce qu'on a clairement dit, Netanyahou a dit, il n'y aura pas d'État palestinien.
À la fin de votre livre, publié très récemment, consacré donc à Martin Buber, vous écrivez ceci. Aujourd'hui, plus que jamais, la figure et l'œuvre de Martin Buber, comme celle de Moïse Mendelssohn, nous enseigne que l'histoire des Juifs et du judaïsme ne se réduit pas à celle de l'antisémitisme, et qu'il y a eu, y compris en Allemagne, et souvent plus qu'ailleurs, des Juifs heureux. Alors, deux questions pour terminer cet entretien. Qu'est-ce qu'un juif heureux? Et y a-t-il des juifs heureux en Israël?
Alors, en tout cas, la seconde question est plus facile. Et bien évidemment, il y a des juifs heureux en Israël. Il y a d'ailleurs des gens pour qui Israël a été et est la clé du bonheur. Donc, ils sont heureux. Alors après, il faut s'entendre, comme dit votre première question, est-ce que c'est simplement de l'optimisme? Est-ce que c'est simplement un vrai bonheur? Ça, chacun l'a dans sa conscience. Mais je disais ça parce qu'on vient de publier l'autobiographie d'Uri Avneri, qui vient de publier ses souvenirs en deux volumes, et qui s'appelle comme ça effectivement optimiste, alors que c'est quelqu'un qui vient aussi de ce milieu juif allemand, qui vient aussi de ce milieu pour la paix, qui a longtemps, qui a bien connu Buber.
Mais le mouvement pour la paix est quasi inexistant.
Absolument,
maintenant.
Non, mais ça c'est la
Il
vie.
Était composé d'intellectuels, d'artistes, d'écrivains, de philosophes.
Eh ben, on attend le prochain. De toute façon, ils ont pas le choix. Des deux côtés. Il n'y a pas le choix. On peut pas continuer de taper sur des gens et mettre des bunkers et des murs de séparation dans chaque quartier. Donc, il y a bien des gens qui vont être obligés de faire le premier pas. Et ça va vous faire plaisir. Sans démagogie, je pense que ça va être aussi les femmes, les mères. Les mères et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui continuent de se battre contre vent et marée, qui ont des conduites prophétiques en disant, c'est un pays, ce qu'a dit Rabin, qu'on a après assassiné, en disant, c'est quand même incroyable. On a réussi à faire un pays où ce sont les parents qui enterrent leurs enfants. Alors c'était vraiment absolument impossible, et je pense que le pire n'est pas toujours sûr, et en tout cas, il y a des chances qu'on va heureusement assister de nouveau, en tout cas à la résurgence de ces partis dont vous parlez.
Merci beaucoup Dominique Bourrel. Je rappelle que votre biographie de Moses Mendelssohn est publiée chez Gallimard, et que votre très récente, monumentale, magnifique biographie de Martine Buber, qui est plutôt d'ailleurs en fait un parcours, un itinéraire à la fois intellectuel, moral, psychique et politique, s'intitule « Sentinelle de l'humanité » et publié chez Albin Michel. Merci à toute l'équipe de Hors-Champ, à Valérie Lavalard, Corinne Amard, Élodie Royer, Samuel Bernard et Didier Lagarde. Vous écoutez France Culture. Bonne fin de soirée.